Voilà, je vous invite sans tarder à prendre vos Bibles et à ouvrir dans le livre des Actes. Nous allons partager une pensée assez simple. C'est possible que je ne prêche pas longtemps. Après, la simplicité n'enlève pas le sérieux et la parole qui est derrière. Dans les Actes, nous allons lire quelques versets au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1er au verset 8. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». On vient de chanter « Regarde à la croix, regarde-nous », ça me fait tilt. Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Voilà, une histoire simple de quelqu'un qui était malade depuis longtemps et qui a été guéri. On ne peut pas faire plus simple comme histoire. Et pourtant, on peut se poser quand même quelques questions. Nous avons ici affaire à quelqu'un qui est boiteux. Dans la Bible, les faits qui sont relatés dans la Bible, les miracles qu'on peut lire dans la Bible, ce sont des signes. D'ailleurs, ça fait partie de la définition de ce qu'est un miracle. Un miracle, c'est un signe. Un miracle a pour but de nous enseigner quelque chose. Un miracle a vraiment une raison d'être. Jésus n'a pas guéri des aveugles simplement pour dire qu'il avait guéri un aveugle. Jésus n'a pas guéri des boiteux pour dire qu'il avait guéri des boiteux. Il y a un sens derrière tout cela. Et derrière un miracle, il y a toujours une vérité spirituelle. Et là, nous allons voir qu'à travers cet homme, mais on peut s'y retrouver nous-mêmes, que nous soyons à Christ ou pas. Ce boiteux, on peut tous être ce boiteux. Alors, ce boiteux, quelle peut être son histoire? On voit dans la Bible qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur cet homme. On sait qu'il est boiteux de naissance. On le lit au verset 2. Qu'il était placé tous les jours à la porte du temple. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais ce boiteux était là de naissance, très certainement qu'il a peut-être même vu Jésus rentrer dans le temple. Pourtant, il n'a pas été guéri. Ce boiteux était là de naissance. Il était tous les jours à la porte du temple. Pourquoi était-il boiteux? Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on peut être boiteux. Une première raison qui nous vient facilement à l'esprit, c'est que c'est un boiteux de naissance. Une malformation, peut-être. Ça peut arriver. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le métro et j'ai vu une jeune fille qui marchait les pieds rentrés. Et ça se voyait qu'elle avait du mal à marcher. On peut avoir des malformations et on peut être boiteux de naissance. Être boiteux de naissance, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'aimerais vous citer cette parole que l'apôtre Paul écrit aux Romains. Ça s'adresse plutôt peut-être aux chrétiens, quoique même nous qui ne connaissons pas Dieu, avons connu ces sentiments-là. Voici ce qu'écrit Paul. « Si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi-même. » Je pense que nous soyons chrétiens ou pas, on a tous vécu plus ou moins ces choses. Avoir envie de faire des choses, et dans les faits, ça n'arrive pas, on n'y arrive pas. « Celui qui me gouverne et me fait agir... » Alors c'est la version parole vivante que je vous cite. « Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus moi, C'est le péché qui a élu domicile en moi. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée. Et je ne puis résister à ses sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine et en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Quel déchirement terrible, infortuné que je suis! Qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? C'est une parole qui peut paraître un peu compliquée quand on la lit, mais qui en fait est très simple. Cette parole nous dit simplement que bien souvent, on sent qu'on aimerait faire du bien, mais on n'y arrive pas. C'est tout simple. On n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on est empreint du péché. Notre corps porte le péché en lui. Un jour, Adam et Ève ont chuté et le péché est rentré dans le monde. Alors on ne va pas s'appesantir sur Adam et Ève. Ils ont commis des péchés, le péché est rentré dans le monde par eux, mais après ils ont été justifiés par Dieu lui-même. Donc Adam est simplement un homme comme nous. Et si Adam n'avait pas existé, ça aurait été probablement par l'un d'entre nous que le péché serait rentré sur la terre. Parce qu'on est tous de la même nature. Le péché est là. Et le péché nous marque. Et par le péché, on se retrouve dans une incapacité à faire ce qui plaît à Dieu. On voit que l'apôtre Paul, quand il écrit ça, il a la vision. Il sait ce qui est bien. Mais il ne le fait pas. Quand Jésus guérissait des aveugles, il leur montrait quelle était la voie à suivre. Et bien souvent, on est aveugle. Et un jour, Dieu nous ouvre les yeux et nous dit, « Bah voilà, ce que tu faisais là, c'est pas bien. Il faudrait que tu fasses plutôt comme ça. Telle chose que tu pratiques, c'est pas bien, c'est un péché. Il faut que tu arrêtes de pratiquer ces choses. » Et une fois que Dieu nous a ouvert les yeux, une fois que le miracle de la vue qui est arrivé est là, on voit les choses qu'il faut faire, on voit les choses qu'il ne faut pas faire, et finalement, on se retrouve dans cette situation de ce boiteux. Après l'aveuglement, c'est le fait de boiter. On a besoin d'aller plus loin. C'est pas le tout d'avoir eu les yeux ouverts, mais il nous faut aller plus loin. On peut avoir eu les yeux ouverts, on peut savoir où est la vérité, on peut savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais si on en reste là, eh bien on est boiteux. Et on va voir un peu plus par la suite que le boiteux, il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Alors on est dans cette situation, peut-être, de naissance, voilà, le péché est en nous depuis notre naissance. Et à cause du péché, on ne peut pas être dans la présence de Dieu. À cause du péché, on se retrouve dans ce système où on veut essayer de faire des choses, on veut essayer par nous-mêmes, par nos propres œuvres. Il y en a qui, peut-être, pour essayer de gagner leur salut, vont essayer de faire des bonnes œuvres, vont donner à des œuvres caritatives, quoique ces choses sont bien. Je ne dis pas le contraire. Mais quand on pratique ces choses et quand on commence à donner de l'argent à ses œuvres caritatives dans le but d'obtenir son salut, là, c'est une autre affaire. Parce que la Bible nous dit que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on va donner de l'argent à des œuvres qu'on va être sauvé. Ce n'est pas parce qu'on va pratiquer certaines choses, qu'on va faire des visites, qu'on va avoir, entre guillemets, un bon témoignage autour de nous qu'on va être sauvé. C'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Je vais l'expliquer un peu plus tout à l'heure. Il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. Et il n'y a qu'un seul chemin pour être relevé. Alors ce boiteux, peut-être, voilà, il était boiteux de naissance. Il peut y avoir d'autres choses. On a un exemple dans la Bible d'un autre boiteux qui s'appelle Méphibosheth. Et la Bible précise que ce pauvre homme, quoiqu'il a été gracié parce qu'il a été accueilli à la table du roi David, Méphibosheth était tombé dans son jeune âge. Et c'est pour cela qu'il était boiteux. On peut être boiteux suite à un accident. Alors, quel accident ça peut être? Est-ce que un jour vous êtes passé par le deuil et vous vous en êtes jamais remis? Est-ce que c'est dur de traverser le deuil? Pour ma part, je l'ai vécu, j'ai perdu ma mère il y a quelque temps. Je suis assez jeune, donc ma mère est partie dans son jeune âge. Et par expérience, c'est pas facile le deuil. Et je comprends tout à fait que passer par le deuil soit difficile et soit une épreuve. Ça peut être un accident. Est-ce que c'est une maladie? Peut-être que un jour on vous a annoncé que vous allez avoir que vous avez une maladie incurable ou que vous avez une maladie qui vous laisse peu de temps à vivre et là vous avez un nouvel accident. Ça peut être un accident de la vie qui vous rend boiteux. Ça peut être une injustice. Un jour vous avez vécu quelque chose d'injuste et ça vous est resté en travers de la gorge. Et vous ne supportez pas cette situation, vous trouvez que vous vous dites « Mais si Dieu existait, pourquoi ça arrive ?» Et en raisonnant comme ça, on devient boiteux. En raisonnant comme ça, c'est un accident qui nous a abîmés et qui nous empêche de marcher. Et il y a encore pire que ça. Ça peut être un accident, mais on peut même être maltraité par son entourage. J'ai vu il y a peu de temps, je pense que vous avez déjà entendu ces choses, que certaines personnes par appât du gain sont capables d'aller mutiler leurs propres enfants pour attendrir les gens et faire l'aumône. Ces enfants-là, ils sont boiteux aussi. Et ils sont victimes de maltraitance. Est-ce que cet après-midi, tu as été victime d'une maltraitance? Est-ce que tu as été victime d'une maltraitance qui t'empêche de faire la paix avec Dieu? Une maltraitance qui te mine chaque jour, parce que chaque jour tu y penses, chaque jour tu es là et cette maltraitance que tu as subie peut-être en étant petit est toujours là et elle t'opprime et chaque jour tu y penses et chaque jour tu ne peux pas t'en sortir parce que tu ne fais que penser à ça et tu ne fais qu'observer chaque jour les conséquences de cette maltraitance que tu as eue un jour. Est-ce que c'est de la maltraitance que tu as eue plus jeune? Est-ce que c'est de la maltraitance que tu as au jour le jour? Combien on entend dans les actualités tout ce qui concerne le harcèlement, les violences conjugales? Je ne pense pas que j'ai besoin de faire de dessins, mais on est dans une société où la maltraitance est omniprésente, que ce soit sur nos lieux de travail, que ce soit dans nos familles, la maltraitance peut être là. Et peut-être cet après-midi, tu es dans ce cas-là. Il y a plein de raisons qui peuvent nous amener à être boiteux. Et dans ces situations, on est malheureux. Pourquoi on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu? Il y a le péché. Mais des fois, quand on reste sur ces choses, on ne va pas pouvoir être capable de saisir la grâce de Dieu. Et on ne va pas pouvoir être capable de prendre la délivrance que Dieu veut nous donner. Alors ce boiteux, on va avancer un petit peu, parce qu'on voit que dans ce parcours de ce boiteux, que ce soit quelqu'un qui a des difficultés à marcher avec Dieu, parce qu'il est dans cette situation qu'expliquait l'apôtre Paul, ou alors parce que c'est dans des situations liées à des accidents de la vie, on est plus ou moins un peu tous concernés, et maintenant on peut essayer de se retrouver dans cet homme. Quel espoir il avait, ce boiteux? Qu'est-ce qu'il attendait de la vie? Vous avez lu comme moi dans la Bible? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était à la porte du temple. Déjà, c'est une bonne chose. Il aurait pu être ailleurs. Et il faisait l'aumône. Il faisait l'aumône. Il cherchait à survivre un peu à sa manière. Il était dans la dépendance totale des autres. Mais il avait abandonné tout espoir d'être guéri. Il avait abandonné tout espoir d'être guéri. Et il essayait d'attirer la compassion des hommes sur son propre état, espérant avoir un petit peu d'argent pour sa subsistance. C'est triste parce que des fois, on est dans cette situation On est boiteux, on est victime de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et on va essayer d'aller chercher des solutions par nous-mêmes. Mais ça revient à ça, finalement. Ça revient à essayer de trouver des solutions qui ne seront pas les bonnes solutions. On va essayer d'aller voir des psychologues. On va essayer d'aller voir... Alors, voilà, c'est pareil, à nouveau, la psychologie, la médecine, les médecins, encore moins. Mais ce sont de bonnes choses, bien sûr. Mais combien sommes-nous à essayer d'aller chercher tout azimut une solution et de ne penser à Dieu qu'au dernier moment? Quel dommage. Quel dommage, dès le départ, de ne pas vouloir remettre au Seigneur ces problèmes que nous pouvons vivre, que nous pouvons tous vivre. Remettre à Dieu ces choses, dès le départ, des fois, je pense qu'on gagnerait bien du temps et bien des efforts. Et peut-être même que certaines souffrances nous seraient épargnées si on avait l'esprit de nous confier en Dieu. Certains vont même plus loin. Certains sont tellement dans l'inquiétude de la vie qu'ils vont aller voir les voyants. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit hier soir à la jeunesse, quoique la voyance, elle est réprimée par Dieu. On va quand même lire ce passage, peut-être ça intéresse à quelques-uns. Deutéronome, chapitre 18, si j'ai bien retenu. Deutéronome, chapitre 18, une petite parenthèse quand même, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel ton Dieu va déposséder ces nations devant toi. Ces choses-là, Dieu ne les approuve pas. Et des fois, dans notre recherche de solutions, on va s'engager dans des chemins qui sont marécageux et qui vont nous enfoncer. Et qui sont même en horreur à Dieu. Si jamais tu as touché à ces choses, demande pardon au Seigneur. Et il pourra te délivrer. On peut aussi se confier simplement dans nos amis. Mais nos amis, même si on peut se confier en nos amis, si toute notre confiance va à nos amis et ne se porte pas à Dieu, on fait aussi une erreur. Nos amis peuvent nous décevoir. Dieu ne nous décevra pas. Donc l'espoir de cet homme était bien limité parce qu'il avait mis son espoir dans les hommes. D'un point de vue de Dieu, quel était l'espoir de cet homme? D'un point de vue de Dieu, il y a un texte qui dit dans le livre des psaumes, le psaume 14, verset 3, qui dit ceci: « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça, c'est pour le péché qui est en nous. C'est pour celui qui est boiteux de naissance. Le péché qui est en nous nous empêche d'être auprès de Dieu. Un autre texte nous dit ceci, dans le livre du Lévitique, au chapitre 21, verset 18, je lis: « Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. » Il est question du temple de Dieu, du tabernacle au moment du Lévitique. Mais on ne peut pas aller au ciel dans l'état que nous sommes. On ne peut pas être dans le péché, parce que c'est là que c'est là tout le symbole. On ne peut pas être dans un état de péché et espérer être au ciel. C'est pour ça que je disais que la Bible dit qu'on ne peut pas être sauvé par nos œuvres, parce que si on n'a pas réglé cette histoire de péché, on ne peut pas être accepté par Dieu. Et ce boiteux-là, il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Il était à la porte, mais il ne pouvait pas rentrer, parce que de toute manière, l'accès, lui, était formellement interdit. Un autre verset, dans un peu la même pensée: « Mais il n'ira point vers le voile, il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Dieu n'accepte pas le défaut. Dieu est saint, il est trois fois saint. Il n'acceptera pas la moindre tache sur notre vêtement. On ne pourra pas s'approcher de Dieu si on n'est pas justifié. Et c'est justement le mot qu'il faut employer parce que c'est par le sacrifice de Jésus qu'on est justifié. Quelle solution on peut avoir par rapport à cette par rapport à ce problème? Je me dis quelque part que ce boiteux, il avait quand même bien fait d'être à la porte du temple. Il aurait pu être ailleurs. Il aurait pu être à la porte de la ville. Il aurait pu. On a dans les évangiles, vous prenez les évangiles, vous verrez différents miracles où les gens étaient au bord d'un chemin, etc. Là, ce boiteux, il était quand même au seuil du temple. Peut-être qu'intérieurement, c'est une interprétation personnelle là, mais peut-être que secrètement, il avait l'espoir d'être guéri. C'est une prière secrète qu'il n'avait jamais faite. Et là encore, j'en viens à vous dire que si vous avez des prières secrètes, on a tous des prières secrètes qu'on n'ose des fois même pas dire. Et bien le Seigneur les entend. La moindre prière secrète que tu peux avoir dans ton esprit, Dieu l'entend cette prière. Et il veut répondre à cette prière que tu as dans ton cœur. Et ce boiteux, il avait peut-être cette prière dans son cœur. Dans le psaume 84, au verset 11 à 13, je lis ceci. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Et là où c'est intéressant, c'est ceci. « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » On a chanté tout à l'heure cette même comparaison avec le soleil. Dieu, il veut, là où il y a des nuages sur notre vie, il veut chasser les nuages. Dieu est un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Pourquoi Dieu va pouvoir faire grâce à cet homme? Parce que tout boiteux qu'il était, il était certainement dans une humilité de cœur. Parce qu'il y a un autre verset qui nous dit, dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5, « Dieu résiste aux orgueilleux. » Mais il donne sa grâce aux humbles. Il y a une mécanique biblique qu'on ne peut pas aller contre. C'est que la grâce est accompagnée de l'humilité. On a la certitude que toute personne à qui Dieu a fait grâce, dans sa parole et dans notre vie de tous les jours, quand on a conscience de la grâce de Dieu sur nous, c'est qu'on est déjà dans l'humilité. Parce que la grâce va avec l'humilité. Si vous n'êtes pas dans l'humilité, sachez que Dieu ne peut faire qu'une chose, c'est vous résister. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et cet homme, Dieu a pu lui faire grâce. Maintenant, sur la solution, elle a été citée plusieurs fois dans ce qu'on a chanté, mais je tiens à le lire quand même. On va prendre nos Bibles et on va aller dans le livre d'Ésaïe. Au chapitre 53. Et j'ai à cœur de lire ce passage. Pour qu'on comprenne bien que si on a cette grâce de Dieu, si Dieu veut nous relever, c'est parce que Jésus a payé pour nous. Si on peut avoir la guérison à notre maladie, si on peut être guéri d'une maltraitance qui nous mine depuis notre enfance, là aussi on peut avoir une guérison de Dieu. Et si on peut avoir cette guérison, si on peut avoir le pardon de nos péchés, c'est parce que Jésus est venu comme un homme. Dieu fait homme sur la terre et il a marché comme un homme. Et il a souffert, on va le lire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Il est question de Jésus qui s'est dépouillé de toute sa gloire, lui qui était dans le ciel, qui était à la création, il s'est dépouillé de tout ça pour vivre sur cette terre comme un homme. Et il a vécu ces choses, il a vécu le mépris, il a vécu tout ce que nous lisons. Dieu lui-même s'est fait homme et il a vécu le mépris de sa création, quand on y réfléchit. Quand on y réfléchit. Je continue. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a souffert en allant à la croix. Il n'a pas souffert qu'à la croix. Jésus a souffert terriblement à Gethsémané. Jésus a connu les angoisses. Il a été tellement angoissé qu'il a dû prier à ce que Dieu intervienne pour qu'il ne meure pas, parce qu'il suait du sang. Vous pouvez aller voir les médecins, quand on est dans cette situation, c'est très très grave. Ça veut dire que le cœur va lâcher. Et Jésus a été exaucé par Dieu pour qu'il puisse continuer et aller jusqu'au bout de ce pourquoi il était venu. Jésus a souffert pour nous. Et c'est par ses souffrances que nous avons le bénéfice de cette grâce de Dieu. Je continue. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. La faute que nous avons faite par ignorance ou pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui en ont contre Dieu et qui font tout pour lui déplaire. Et qui vont l'accuser pour un oui ou pour un non. Mais il y a d'autres personnes qui, à la limite, sont correctes. J'ai connu des gens à mon travail, on aurait pu dire qu'ils étaient chrétiens. Et pourtant, on peut être bien, mais dans cet état d'esprit où on ne connaît pas Dieu, et on ne peut pas être sauvé parce que le seul chemin, c'est Jésus. On peut faire des fautes, on a tous fait des fautes, on est tous marqués par le péché. Qu'on ait fait des choses volontairement ou pas. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra, une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasira ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Eh oui, Jésus est mort, mais il n'est pas que mort. Jésus est ressuscité le troisième jour. Et maintenant, il est auprès du Père. Et il intercède pour nous. Je peux vous dire cet après-midi que Jésus, il intercède pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous lui appartenions. Ce verset que je vous lis, il est dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. « En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards. Il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance et avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce. Nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. » Et il me semble que c'est aussi dans Romains au chapitre 7. Je vais juste vérifier. Bon, je ne vais pas perdre du temps à chercher la référence. Je pense que c'est dans le verset 7 où il est écrit qu'il intercède pour nous. Il est au ciel, il intercède pour nous auprès du Père. Alors, si on continue sur notre passage, on va reprendre un peu le fil de notre histoire. Maintenant, on sait que si ce boiteux est guéri, c'est par le nom de Jésus-Christ. C'est ce que Pierre dit. Verset 6, mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » La victoire, elle est en Jésus, à la croix, en Jésus-Christ. Il n'y a que dans le nom de Jésus-Christ qu'on peut avoir cette délivrance que nous attendons. Par contre, l'apôtre Pierre lui donne bien un ordre et nous demande un effort de foi. Il ne faut pas rester. L'aveugle, il aurait très bien pu dire, mais écoutez, c'est bien ce que vous me dites, mais j'ai jamais marché. Il aurait pu très bien le dire. Mais il y a un moment donné, Dieu nous demande de nous positionner. Dieu nous demande si on est prêt à le croire ou pas. La Bible nous dit que nos péchés ont été pardonnés par le sacrifice de Jésus à la croix. Est-ce qu'on est prêt à le croire? Parce que dans ce cas-là, on est sauvé simplement en croyant ce que Jésus a fait. C'est simple. Il n'y a pas d'effort à faire. Il faut juste croire. Et la foi nous amènera aussi à obéir. Vous pouvez croire qu'il serait guéri, mais s'il ne s'était pas levé, il n'aurait pas marché. Alors qu'est-ce que Dieu peut nous demander? Peut-être que tu as été victime de maltraitance, si je reprends cet exemple. Est-ce que la délivrance viendra par le pardon à cette personne? J'ai connu des témoignages comme ça, de personnes qui avaient souffert et qui ont eu une délivrance de Dieu par le pardon. Dieu leur avait mis à cœur de pardonner à ces personnes. Et là, ils ont été complètement délivrés. Est-ce que dans une situation difficile, Dieu nous demande simplement de nous arrêter de nous plaindre et d'apprendre à lui faire confiance? Est-ce que il faut s'arrêter de regarder? Tout à l'heure, on a lu l'apôtre Pierre qui disait « Regarde-nous ». On a chanté tout à l'heure « Regarde des croix ». Dans nos situations difficiles, à qui faut-il regarder? Est-ce qu'il faut regarder aux vagues qui sont fortes? Est-ce qu'il faut regarder aux circonstances de la vie ou est-ce qu'il faut regarder à Dieu? Dans le psaume 37, il est écrit ceci, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » C'est à Dieu qu'il faut regarder. Est-ce que Dieu te demande d'arrêter de pratiquer certaines choses qui ne feront que t'éloigner de lui? Ça peut être ce pas de foi que Dieu te demande pour que tu puisses saisir la guérison. Dans tous les cas, on ne peut pas rester boiteux et rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Et je termine avec ça, au verset 8, si vous regardez bien. Il est écrit ceci. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. La guérison qu'il a obtenue est pleine, entière et totale. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir une jambe dans le plâtre pendant 3 semaines, ou même les deux. Mais les muscles ne sont pas affermis en 2 secondes. Pour pouvoir remarcher, ça demande aux muscles de se réadapter. Et là, on a un homme qui n'a jamais marché de sa vie. Si quelqu'un qui n'a jamais marché, je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui sont en chaise roulante, regardez comment sont leurs cuisses. Elles sont très très fines parce que leur musculature n'est pas développée. Et il y a un enseignement avec ça. C'est que quand Dieu nous guérit, il nous guérit. C'est pas quelque chose où dans 2 jours on va retomber. Quand Dieu nous guérit, il nous guérit. Et il faut savoir prendre par la foi la guérison que Dieu veut nous donner. Et il faut savoir prier dans la foi, il faut savoir saisir cette guérison comme ce boiteux l'a fait. Il a pris la main de Pierre et il s'est levé d'un bond. Ses muscles ont été raffermis d'un seul coup. Et il est allé dans le temple en sautant et en louant Dieu, en sautant. Il n'avait jamais marché de sa vie, il était en train de sauter dans le temple. Dieu l'a guéri complètement et il avait des jambes normales. C'est un vrai miracle, c'est pas simplement qu'il s'est mis à marcher, c'est que il n'y a pas eu besoin de temps de convalescence. La guérison est arrivée instantanément, entièrement et totalement. Et ça, vous pouvez le vivre aujourd'hui. Dieu peut vous guérir instantanément. Vous pouvez repartir de ce lieu avec un fardeau en moins, avec la paix dans votre cœur, que vous n'avez jamais connu la paix jusqu'à aujourd'hui. Si vous vous repentez de vos péchés, instantanément, vous êtes sauvés. Vous pouvez vivre cette paix intérieure que nous vivons, nous qui avons donné notre cœur à Christ. Et vous avez vu où il va, ce boiteux. Enfin, il peut rentrer dans le temple. C'est la conclusion. Après, il y a encore tout un passage en lien avec son histoire. Mais ce boiteux, il est relevé et il va dans la maison de Dieu. Dans la symbolique de ce que j'ai lu tout à l'heure, ça veut dire que quand on a fait la paix avec Dieu, quand on a cru au sacrifice de Jésus à la croix pour nous, on est accepté de Dieu parce que Dieu nous voit purs. Dieu nous voit sans tâche. Et on peut, alors qu'on a cru au sacrifice de Jésus, on peut prétendre à avoir accès au ciel. Et on sait, et on peut dire, je sais que je suis sauvé. On ne dira plus j'espère, parce que celui qui espère, il n'est pas sauvé. Celui qui est sauvé, il le sait. Et si vous ne le savez pas, je vous encourage à être d'une manière sincère avec Dieu, à faire le point sur votre vie, et à réfléchir sur ces choses, à réfléchir sur ce que le Seigneur Jésus a fait. Parce que ce serait tellement dommage que Jésus soit venu sur cette terre et que vous ne croyez pas en lui. Parce que Jésus, il est venu pour sauver tous les hommes. Et la grâce, elle est pour tous.